As-tu entendu la dernière nouvelle?
L'Insider Hockey. Aux quatre coins de la ligue, tout le monde lui parle. Puis il fait parler tout le monde.
The one, the only.
L'Insider Hockey. Renaud Lavoie.
Mais après moi, les oreilles de Sidney Crosby cillent pas mal ces temps-ci.
Ben, ça fait,
parce qu'on
ça,
en parle souvent.
Ça fait une couple d'années qu'ils cillent, les oreilles de Sidney.
Ouais. Salut Renaud!
Hey Renaud, ben, ça va?
Oh, super bien, club. Puis oui, effectivement, c'est sûr que ça cille. Puis moi, je suis un peu estomaqué qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les camps d'entraînement ne sont pas encore ouverts. Puis on parle de deux joueurs, écoute, probablement encore les deux meilleurs joueurs de la Ligue nationale, soit en Connor McDavid et Sidney Crosby, et qu'on parle d'une possibilité que ces deux joueurs-là soit échangé, ouais, éventuellement. Est-ce que c'est cette saison? Est-ce que c'est l'été prochain? Est-ce que c'est Connor McDavid qui signe comme joueur autonome sans compensation, qui change de formation? Est-ce que ça se fait avant ça? C'est quand même hallucinant et c'est extrêmement rare qu'on se retrouve dans une situation où deux grosses vedettes, superstars de la Ligue nationale, ont une espèce de... Je ne veux pas dire un nuage au-dessus de leur tête parce que c'est pas comme ça qu'eux voient les choses, mais qu'ils ont beaucoup d'incertitudes par rapport à leur avenir.
Ouais, deux situations complètement différentes, par contre. Dans cas, Crosby a déjà gagné, puis il y a comme quelque chose de triste, je pense, puis ça, c'est mes mots à moi, vous avez le droit d'avoir une opinion différente, de voir un si grand joueur terminer dans une reconstruction pour lui permettre d'aller ailleurs et de potentiellement encore gagner, tandis que McDavid est dans la fleur de l'âge et veut gagner. Mais t'as raison, c'est vrai que c'est spécial de voir les deux plus grands joueurs de la Ligue qui sont présentement sur la sellette, présentement.
Ouais, ben, ouais, sur la sellette. Crosby, moi, là, non, mais arrête, attends, arrêtez, là. Crosby, là, j'ai jamais cru à ça. Ça a parti que des spéculations, des rumeurs. Pis... Non, Renaud, arrête, là. Ça serait le fun d'avoir Crosby à Montréal. Ben oui, ça serait le fun d'avoir Crosby à Montréal.
Si t'enlèves Montréal de ta phrase, tu crois-tu plus qu'il peut... Parce que,
Non, je pense réellement que c'est une possibilité, Gilbert. Ben, OK.
Pas nécessairement Montréal.
Mais moi, je pense pas.
Moi, je dirais que la possibilité existe encore plus depuis hier qu'elle existait avant hier.
Pourquoi?
Que, juste pour rappeler aux gens, là, Sidney Crosby à Pierre Lebrun a déclaré que oui, il entendait toutes les rumeurs, que oui, il vieillissait, que son objectif c'était encore de gagner, mais en même temps, il s'amusait, il trouvait ça drôle comme situation, mais contrairement aux dernières années, avant, la porte, il l'a fermée à double tour. Là. Parlez-moi pas de ça, c'est impossible. Là. Je vais être un pingouin pour le reste de mes jours. Là, hier, tu as une ouverture qui arrive, tu as Pat Brisson qui, lui, écoute, jette les gants, dit clairement ce qu'il pense. Il dit, c'est Tom Brady, ce gars-là devrait être en série à toutes les années, puis il faut qu'il gagne une ou deux autres Coupes Stanley. En même temps, quand il dit ça, c'est tout un message qu'il lance à Carl Dubus, parce que Carl Dubus, je regarde la formation qu'il a donnée cette année à Sidney Crosby. Allez voir les deuxièmes et troisièmes trios. Je vous souhaite bonne chance.
C'est croche.
Tommy Novak, Philippe Tomasino, Justin Brazeau, si je te dis, Blake Lizotte, Connor DeWar. Troisième et quatrième trio, c'est tout simplement pathétique. OK? Il n'y a pas une autre façon de voir cette formation-là. Et effectivement, si tu es l'agent de Sidney Crosby, tu regardes ça et tu te dis, ça peut pas durer. Ouais. Ça peut plus durer comme ça.
Mais peut-être c'est pathétique parce que eux-mêmes se sont mis dans cette situation-là. Je veux dire, ils ont pressé le citron en allant chercher Eric Carlson. Ils ont décidé de s'engager à long terme avec Malkin et Letang pour croire encore en leur noyau. À un moment donné, ça te revient en face. Il y a des conséquences à tes actions. Ça touche pas Crosby. Lui, c'est autre chose. S'il veut partir, il part.
C'est ça. L'autre chose dans tout ça, maintenant, c'est toujours le premier endroit où Sidney Crosby s'exprime dans une saison, c'est où je suis présentement à Vegas, qui est au Media Player Tour, donc la tournée des joueurs avec les diffuseurs de la Ligue nationale. Bon, maintenant, il va retourner à Pittsburgh, camp d'entraînement qui ouvre d'ici une semaine à 10 jours. Et là, il va falloir qu'il réponde évidemment, à ce qu'il a dit ici à Vegas et ce que Pat Brisson, son agent, a dit aussi au même moment. Puis à partir de ce moment-là, on va voir comment Sidney va dealer avec ça. Est-ce qu'il ferme la porte? Mais moi maintenant, je regarde la situation parce qu'évidemment qu'il y a des gens de toutes les équipes de la Ligue nationale qui sont ici à Vegas présentement, sauf une formation, évidemment, qui est au-dessus de la mêlée. On parle des Oilers d'Edmonton, mais à part ça, tout le monde est ici. Puis, que tu veux ou que tu ne veuilles pas, là, puis je l'ai senti hier, là, quand je parlais à des représentants de l'Avalanche du Colorado, là, eux autres, ils me regardent en disant « Montréal n'aura pas une passe gratuite là, quand Sidney Crosby va être disponible. » Mm-hmm. Nous autres aussi, on va y aller fort. Mettez les Kings dans le même scénario. Mais ça reste que on est peut-être rendu à 33% de chance là, qu'il soit échangé Sidney Crosby, puis on était peut-être à juste 10% il y a une semaine. Mais les données commencent à changer tranquillement. Quand on peut comparer la situation avec Connor McDavid, c'est que Connor McDavid, lui, exprime clairement qu'il est inquiet de ce qui se passe avec les Oilers.
Il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de contrat non plus après l'année prochaine.
C'est ça. Puis il se pose la question. Dans 3 ans, mon club ressemble à quoi? Là? On est vieux. On va vieillir. Là. Lui, il se dit, moi, je ne veux pas être comme Sidney. Là. Je ne veux pas me retrouver puis être un ambassadeur qui joue au hockey. Là. C'est pas ça qu'il veut faire. Il veut gagner. Et Sidney aussi, je pense, qui est rendu là ou un peu plus dans sa tête.
Ah, mais il a gagné là, des Coupes Stanley, Sidney Crosby. Il a gagné des Coupes du monde. Il a tout gagné.
Tom Brady a gagné aussi des Super Bowls.
Ah oui.
Il a fait à un moment donné, vous ne voulez plus, puis ça ne vous intéresse plus de gagner, mais parfait. Je vais aller gagner ailleurs.
Il y a un qui a gagné à Tampa, hein, oui.
C'est ça. Alors, est-ce qu'on s'en va vers ce scénario-là? Moi, je dirais de plus en plus possible, oui. Maintenant, c'est aux équipes, soit l'Avalanche, les Kings et les Canadiens, de préparer en conséquence. Si jamais le téléphone sonne, il faut que tu sois prêt à accepter justement une réalité, c'est que Sidney Crosby pourrait être échangé à une de ces trois formations-là. Je n'en vois pas une autre.
Mais ça va coûter quoi, Sidney Crosby? Il ne viendra pas ici pour un choix de 3 ou un choix de 4. Mais c'est ça. Là, ça va nous coûter des espoirs de premier plan. T'sais, ils sont pas caves. Dubus, il est cave, mais pas tant que ça. Là.
Sauf que, ça reste que si Sidney Crosby dit « Moi, je vais être échangé à l'Avalanche du Colorado seulement », à partir de ce moment-là, le pouvoir de négociation vient de tomber. Je te dis pas que les Pingouins obtiennent rien en retour, là, Gilbert. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Mais il y a une grande différence entre Sidney Crosby qui dit « OK, moi, c'est soit Kings, Avalanche ou Canadien. Bidez les trois. Puis peu importe lequel des trois gagne le bid pour les Pingouins de Pittsburgh, ben je vais aller jouer là-bas. Mm-hmm. » Mais non, parce qu'à partir de ce moment-là, on s'aide pas plus. Là. Tu peux pas commander à vider ta formation pour aider les Pingouins. Puis là, Sidney Crosby il arrive dans une équipe où il manque 2-3 joueurs de premier plan parce que tu les as envoyés à Pittsburgh. Mais pas plus avancé.
Ouais. Puis ce qui est intéressant à surveiller dans la situation de Crosby, puis je pense que ça va être ça pour bien les équipes cette année, on va regarder peut-être le début de la saison, comment ça se passe. Mais si ça se passe pas bien, là, les Pingouins, il y a un gars comme Malkin, 6,1 millions. Tu retiens 50% de son salaire à 3 millions pour intéresser des équipes. Mm-hmm. Tu as Brian Ross et Ricard Raquel qui commandent encore des gros salaires pour plusieurs années. Est-ce qu'on pourrait pas possibilité de les échanger à ce niveau-là? Un gars comme Erik Karlsson, tu retiens 50%, tombe à 5 millions. Pas mal plus intéressant, pas mal plus attrayant pour une autre formation. Fait que là, déjà que la formation des Pingouins ne fera pas les éliminatoires cette année, je pense qu'elle pourrait avoir un visage complètement différent à Noël. Fait que ça n'ira pas en s'améliorant, je pense, la situation. Ce qui, encore plus, augmente les chances de voir Pat Brisson et Sidney Crosby se dire, tu sais quoi, mais peut-être mieux d'aller ailleurs.
Oui, et ça, c'est évident. Il y a l'autre côté de la médaille, parce que là, on parle d'un seul côté de la médaille. C'est cette forte possibilité, cette possibilité, je devrais dire, qu'il ait échangé. L'autre côté de la médaille, c'est qui est Sidney Crosby? Et Sidney Crosby, son idole, c'est Mario Lemieux. Ça a été son propriétaire et son coéquipier pendant quelques matchs. C'est un gars qui est extrêmement respectueux des traditions. Le seul joueur de la Ligue nationale encore à ce jour à jouer avec des gants en cuir. C'est un gars qui n'aime pas le changement, mais absolument pas. Ne veut rester dans ce qu'il aime, dans ce qu'il connaît. C'est un gars qui est évidemment très, très superstitieux, mais au-delà de tout ce que je viens de dire là, c'est aussi quelqu'un qui est reconnu pour être un gagnant. Et là, présentement, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, à part s'il y a un petit miracle qui arrive, cette formation-là des Pingouins de Pittsburgh ne fera pas les séries éliminatoires. Alors, Sidney Crosby est finalement devant un miroir présentement, puis il se regarde puis il se dit, c'est quoi ma destinée? Comment ma carrière se termine? Et c'est lui-même qui l'avoue. Il reste pas encore 10 ans dans la Ligue nationale. Mmh. Alors, à partir de ce moment-là, il faut qu'il prenne des décisions. L'an dernier, il a fermé la porte vite. Il a dit, je viens de signer un contrat de 2 ans, une prolongation de 2 ans avec les Pingouins de Pittsburgh. C'est à Pittsburgh que je joue ce contrat-là. Point final. Mmh. Et là, aujourd'hui, whoops, c'est plus ça qu'on entend, là. C'est c'est un autre discours. À partir de ce moment-là, si tu es un partisan des Canadiens, de l'Avalanche ou des Kings, tu as le droit d'espérer.
Moi, Renaud, je t'entends parler de trois équipes, là, dont les Kings de Los Angeles. Il y a beaucoup de gens qui sont surpris sur la messagerie texte, sur YouTube, de t'entendre parler des Kings. Moi, ça me surprend pas. J'ai sorti la même information il y a quelques jours. Moi aussi, j'ai entendu les Kings. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu. Là. Cette équipe-là, non. Ça me vraiment intéressait, c'est Nick Crosby. Sais-tu pourquoi?
Ben, d'abord et avant tout, c'est une équipe, tu sais, qui, la journée qu'elle va passer à travers les Oilers d'Edmonton en série, elle a des bonnes chances de faire un bon bout de chemin, là. C'est une équipe qui est très, très bien balancée. Et faut pas oublier une chose, là. Pat Brisson, Luc Robitaille, là, je veux dire, c'est deux très, très grands amis, là, de longue date qui ont joué ensemble avec les Olympiques de Hull, là, puis qui ont bâti, si tu veux, leur carrière ensemble. Luc, comme joueur de hockey, présentement, comme président des Kings de Los Angeles, puis Pat Brisson, pas besoin de te faire le pedigree de sa carrière d'agent qui est, écoute, extraordinaire, une des plus grandes réalisations pour un Québécois dans la Ligue nationale de hockey. Donc, tu regardes tout ça, puis tu te dis, OK, il y a une possibilité là. Aller jouer à Los Angeles, c'est aussi attrayant. Là, faut pas l'oublier. Là, c'est pas un marché qui est don dans la Ligue nationale de hockey. Puis c'est une équipe montante. Puis ça, les Kings, je veux dire, ça fait quand même, je te dirais, là, un bon 6 mois. Je me rappelle qu'on avait parlé de ça aussi au printemps dernier comme possibilité dans cette chronique. Ça reste que c'est des trois équipes-là. J'avais entendu parler peut-être aussi des Stars de Dallas. Ça pourrait être aussi les Stars de Dallas, mais je vois pas vraiment de lien avec les Stars. Il y a un lien naturel à Los Angeles. Il y a à cause de Pat, entre autres. Mm-hmm. T'as un lien naturel à cause de Nathan MacKinnon, qui est le meilleur ami de Sidney Crosby.
Évidemment.
Deux grands chums. Puis le troisième lien naturel, ça reste que le père de Sidney Crosby a été repêché par les Canadiens de Montréal, n'a jamais joué avec les Canadiens. Mais dans les Maritimes, où Sidney a grandi, Sidney Crosby a grandi avec un chandail des Canadiens de Montréal.
Ouais,
il n'a pas grandi avec un chandail des Maple Leafs. Puis juste une petite anecdote, là, ça, c'est anecdotique. Mais à chaque fois que Sidney Crosby, je le rencontre, il me parle de qui? Il me parle des Canadiens. La première chose qu'il m'a dit quand je l'ai croisé ici à Vegas, c'est « Ouais, pas mal de monde sur la patinoire à Brossard, hein? Tout le monde est là. »
Tu vois, hein? Ça fait réagir, ça.
Ouais. Si ce gars-là est au courant de ces affaires-là, parce qu'il regarde ces affaires-là, ça, il se tient au courant de ce qui se passe, parce qu'il n'a pas le choix de le faire, parce qu'il se dit « Un jour, peut-être, que je vais être forcé de prendre cette décision-là. Puis qu'est-ce qui se passe à LA, puis qu'est-ce qui se passe à Denver, puis qu'est-ce qui se passe à Montréal? » Ça a une importance à ses yeux.
Ouais. Puis c'est un pro. Puis ça sera toujours un pro, peu importe l'uniforme qu'il va endosser dans les prochains
pro.
Mois.
Le
pro.
Ultimate professional.
Exact.
Ultimate professional.
Sais-tu qui est un pro? Renaud Lavoie, parce qu'il ne sait pas, mais je vais changer ses sujets. Après la pause. Après la pause, Renaud, je veux t'entendre sur André Markov, qui va être honoré au Centre Bell le 3 décembre prochain. Reste là. Le 3 décembre prochain, André Markov sera souligné au Centre Bell. Très bonne nouvelle. Pleinement mérité pour l'ancien défenseur du Canadien. Et moi, j'ai envie d'entendre Renaud là-dessus. Je veux qu'on creuse un peu plus. Parce que me semble que de l'extérieur, ça s'est pas bien fini entre Markov et le Canadien. Pour moi, c'est une aberration qu'on l'a laissé à 990 matchs joués, Renaud.
Ouais, écoute, c'est tout un dossier dont je me souviens comme si c'était hier. Parce que, André Markov faisait quand même partie des meubles chez les Canadiens de Montréal, mais. Juste pour mettre en contexte, là, André Markov, son agent, c'était Don Meehan. Puis, à un moment donné, il a coupé les ponts avec Don Meehan parce qu'il y avait l'impression que Don avait tenté, justement... je pourrais dire qu'il y avait une insatisfaction dans la façon dont André Markov se voyait, puis peut-être la façon dont les négociations se passaient pour des contrats à l'époque. Bref, ça a été à ne plus inviter au même party. Là. André Markov voyait Don Meehan dans les corridors au Centre Bell, là, en bas, après certains matchs. Là, puis, il le fusillait du regard.
Il n'avait pas négocié son propre contrat, Markov, à la fin.
Et voilà.
Il avait négocié son propre contrat, hein? Pas lui-même.
C'est ça. C'est pour ça que le contexte est important. C'est que lui, André Markov, était convaincu qu'il pouvait obtenir un contrat de 2 ans dans la Ligue nationale de hockey. Marc Bergevin devait donc négocier directement avec André Markov. Le salaire de base qui avait été donné à André Markov était autour des 3,5 millions de dollars, là, OK? Mais parce qu'André avait 35 ans et plus, on lui donnait des bonis à la signature qui étaient quand même très importants. Quand on parle de bonis à la signature très importants, c'est genre, ça te donne 300 000 piastres si tu joues 10 matchs. Ça te donne un autre 300 000 piastres si tu joues 20 matchs.
Des bonis à terre, là.
Aïe, aïe.
C'est ça, des bonis ramassés par terre comme Patrice Bergeron, dans son dernier contrat, allait chercher, là. Je veux dire, alors, le contrat pouvait amener Andrei facilement à 5 millions, voire 5 millions et demi de dollars, le salaire qu'il touchait auparavant. Mais lui, dans sa tête, Andrei, c'était, écoute bien Marc, là, le marché des joueurs autonomes va s'ouvrir et je vais recevoir une offre de 2 ans. Et cette offre de 2 ans ou de 1 an n'est jamais venue d'aucune autre formation de la Ligue nationale. C'est pour ça qu'Andrei Markov s'est retrouvé devant absolument rien. Aujourd'hui, là...
Penses-tu qu'il était blackmailé?
Non.
Par qui?
Don Meehan.
Qui aurait fait le tour
non,
pour
non,
dire...
Non,
ben oui ou non, les gars. Vous êtes pas si naïfs que ça, là.
Mais explique-toi.
Non.
Marc Bergevin, puis Don Meehan, tu penses, pensais pas?
Ben, je pense pas que Markov avait une réputation d'être un mauvais garçon dans le vestiaire ou quoi que ce soit.
Non, je pense pas.
Puis les équipes veulent gagner,
je sais pas qu'est-ce que Meehan a dit.
Les problèmes de Meehan puis Marc Bergevin, c'était pas les problèmes du reste des directeurs généraux. Peut-être, je comprends ce que tu veux dire, là.
Oui, mais tu vas chercher un gars de 35 ans, puis tu te fais dire, ouais, je sais pas, moi...
Fais attention.
Ouais, tu comprends, c'est ce côté-là, ouais. Là, tu sais.
Mais en même temps, tu as des équipes qui veulent gagner, puis Andrei, je veux dire, il était pas obligé de signer le 1er juillet. Il aurait pu attendre à quelque part au mois d'octobre, novembre. Il y a des équipes, il y a des blessés, puis bang, on se retrouve avec l'offre de contrat qu'on n'a pas eu le 1er juillet. Puis elle apparaît justement parce qu'il y a des blessés qui arrivent un peu partout dans la Ligue nationale. C'est pas ça qui est arrivé. Et je trouve ça dommage comme fin de carrière. Puis aujourd'hui, si j'avais Andrei Markov devant moi, la question que je lui poserais, c'est est-ce que tu regrettes le fait que tu n'aies pas eu d'agent pour négocier ton dernier contrat? Et cette question-là, elle est libre. Ah, ouais. Puis si Andrei Markov nous dit « Non, j'ai pris la bonne décision », ben je trouve ça plate, Andrei, que tu penses comme ça, parce que en réalité, les agents sont là pour aider les joueurs justement à naviguer, pas quand ça va bien, à naviguer dans la tempête. C'est ça leur job. Et
ouais, là, mais il y en a qui sont pas toujours là. Les chats, ça, je peux te le dire, mais dans mes années, il y en avait qui n'étaient pas toujours là. C'est facile quand tu ça va bien puis tout ça, là, pas de trouble, là, mais quand tu as besoin d'aller chercher, surtout un joueur, surtout les joueurs marginaux. Tu as besoin d'aller chercher une couple d'années de plus. Là, hein, des fois, là, wow, I'll take care of the big guy. I'll take care of the big guy. Puis toi, regarde, là, tu prendras des pinottes rendues au bout. Là.
C'est ça.
Attention à ça, les gars. Là. Ouais.
Ben oui. C'est des choses qui sont naturelles. On est humain d'une certaine façon. T'sais. C'est sûr que quand tu as, mettons, 100 clients, ça se peut que si tu es le centième, à un moment donné, tu passes dernier.
Ouais. Mais tu sais, ça, c'est la fameuse année pour les gens qu'il faut remettre le contexte. Là. C'est l'année où est-ce qu'on a perdu Alexis Imeline à l'expansion. C'est l'année où est-ce qu'on a échangé Nathan Beaulieu. C'est l'année où est-ce qu'on a échangé Mihail Sergachev. Et là, on décide de ne pas re-signer Andrei Markov.
Puis on pensait qu'on avait une meilleure défensive du côté gauche.
On sort au tournoi de golf pour dire qu'on a une meilleure défensive. Je vais vous rafraîchir la mémoire. On avait, en défensive, on avait Shea Weber et Jeff Petrie.
Popeye.
Parfait. Excellent. Très bien parti. Attention pour la suite. Joe Morrow. Jordy Ben,
Joe Morrow.
Noah Jolson, Jakub Jerabek, David Schlemko, qu'on a entendu.
David Schlemko.
Carl Alsner, qui était la grosse signature. Rinat Valiev avait joué 2 matchs en transaction Plekanec, je pense, si je vois de mémoire.
Valiev,
on avait signé Mark Streit. Après 2 matchs, on a déchiré le contrat. Brendan Davidson a joué une poignée de matchs. Brett Lernout a joué. Mike Riley a joué. Et on a même forcé l'arrivée de Victor Mété parce qu'on avait tellement pas de monde. On s'est retrouvé finalement à repêcher Jesperi Kotkaniemi 3e parce qu'on a eu une année de misère. De misère.
Ça a été, selon moi, le début vraiment là, de la fin pour le règne de Marc Bergevin. Si on avait une date, là,
parce que
ça t'amène en plus à Jesperi Kotkaniemi, puis Jesperi Kotkaniemi, tu n'as pas le droit de te tromper et tu te trompes royalement.
Ouais.
Puis à partir de ce moment-là, là, ton organisation là, coule vers le bas et pas à peu près. Mais ceci étant dit, cette décision-là, puis en plus, tu as Shea Weber, ne l'oublions pas, au premier match à Buffalo, reçoit un tir frappé directement sur la cheville et continue de jouer 25 matchs sur cette fameuse cheville qui n'avance plus, qui ne fonctionne plus, jusqu'au jour où on décide qu'on doit l'opérer. Et c'est la fin des émissions. Et c'est un moment qui a été très, très difficile pour l'organisation des Canadiens de Montréal, qui a duré pendant plusieurs années. Est-ce que si tu repêches Brady Tkachuk, les choses changent probablement? Il y a peut-être d'autres choses, par contre, qui arrivent pas par la suite. Là, est-ce que tu repêches Caulfield? Tu sais, tu vas peut-être être meilleur au classement que tu aurais dû l'être, mais ça a été une avalanche de mauvaises décisions dans un certain sens, puis ça a fait mal aux Canadiens et à l'organisation à partir de ce moment-là.
Il faut se souvenir des propos de Marc Bergevin au camp d'entraînement. Qui peut oublier le fait lorsqu'il a mentionné... Exact. On va être meilleur défensivement.
Ironiquement, lui qui prônait « on n'a jamais assez de bons défenseurs ».
Ah, moi, je suis tombé en bas de ma chaise. Sérieux, là.
Ah, oui.
On venait de se débarrasser de...
Ben moi, je m'en souviens comme c'était hier. Moi, à ce moment-là, je travaillais à TVA Sport. Puis là, on parlait de David Schlemko. Puis là, les gens nous disaient, j'ai assez hâte de voir Schlemko. Schlemko, c'est un sixième défenseur.
Hey, Max!
Puis c'est comme si David Schlemko, c'était le sauveur. Là.
Ouais. Hey, on le faisait jouer sur le power play à tour de bras. Sérieux, non, c'est vrai. Renaud, c'est vrai. Tu
l'as ramassé le mal assez vite.
Tu vois le Canadien, hein, il jouait sur le power play, David Schlemko.
Ouais. C'était une autre époque,
Gilbert. Une époque qu'on veut oublier.
L'autre, Valiev, là, que t'as nommé.
Rinat Valiev.
Rinat Valiev. Il tapait patineur que Brad Marsh, tabaslan.
Hey, Rinat Valiev, t'as bien beau rire de lui, là. Canadien est allé chercher Brett Kulak avec ce gars-là.
C'est vrai.
Kulak nous a rendu de bons services.
Il nous a donné Lane Hudson.
Qui nous donne Lane Hudson bon aujourd'hui. Service.
Absolument. Exact.
Tout est à cause de notre chum Rinat.
Eh oui, je le savais qu'il était bon.
C'est fou, hein?
Merci, Renaud. À demain.
Salut, Ren.
Salut, Ren. Passez une belle journée. On se parle demain.